Je me présente, Patrick Henner-Simonet, je suis chef de projet IPv6 pour le réseau mobile Orange. Donc aujourd'hui, Orange a fait le choix de, pour passer en IPv6, a fait le choix d'IPv6 only. Voilà, donc je vais vous présenter toutes les problématiques que l'on rencontre pour, pas vraiment avec IPv6 only, mais pour finaliser IPv6 only, pour concrétiser IPv6 only. C'est-à-dire en fait passer d'un réseau qui est dual stack, enfin pas vraiment dual stack, qui est IPv4 plus IPv6, à un réseau qui n'est vraiment que IPv6. Parce que finalement, la finalité d'IPv6 only, c'est d'avoir un réseau qui n'est que IPv6. Voilà. Donc je vais vous parler de la problématique roaming, la problématique de la transition vers IPv6 only, de DNS 6.4, le CLAT, le PATMTU Discovery, et puis un bilan de tout ça, un bilan rapide de tout ça. Voilà, donc comme je le disais, le choix d'Orange, c'est de faire de l'IPv6 only avec du NAT 6.4 et DNS 6.4. Donc les mobiles passent en IPv6 lors d'un changement de mobile ou d'un upgrade d'OS. Et ensuite, on se retrouve donc avec un réseau avec des mobiles qui sont en IPv6 et d'autres qui sont en IPv4. Donc on pensait qu'avec le NAT 6.4, DNS 6.4, on allait s'affranchir entièrement d'Internet, mais on verra plus tard qu'on ne s'affranchit pas vraiment d'Internet. Pas entièrement d'Internet avec le NAT 6.4, DNS 6.4. Donc le contexte aujourd'hui, voilà. Hier on était uniquement en IPv4. Aujourd'hui on est en IPv4 plus IPv6. Donc qui est une phase transitoire, mais une phase qui génère de la complexité. Voilà. Donc l'idée c'est d'être demain en IPv6, de supprimer totalement IPv4 sur le réseau interne. Aucun adressage IPv4 sur les équipements mobiles, voilà, ni sur le réseau cœur. Voilà, donc ça nous permettra d'améliorer le support, d'améliorer l'ingénierie, de simplifier l'ingénierie, pardon, d'améliorer le support en cas de problème de troubleshooting. Voilà. Donc il y a plein d'avantages à n'avoir qu'un seul réseau, que des clients IPv6 et un seul réseau IPv6. Voilà, donc la problématique roaming, donc, oui.
Excusez-moi, mais je n'ai pas compris quelque chose. À un moment, vous avez dit IPv4, NAT 6.4 et on doit s'affranchir d'Internet.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire
Excusez-moi.
que les sites Internet, ils n'ont pas besoin de passer en IPv4, en IPv6. Ils peuvent rester en IPv4. Finalement, l'opérateur, ce n'est pas vraiment un problème pour lui.
Ouais, je comprends toujours pas qu'est-ce que ça veut dire que s'affranchir d'Internet, parce que vous utilisez Internet. Vous êtes
Non,
sur.
non, pas s'affranchir d'Internet. S'affranchir d'Internet IPv4, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi, ouais. S'affranchir d'Internet IPv4. C'est-à-dire que IPv4 peut rester en. Et Internet peut rester en IPv4. Ce n'est pas un problème. L'opérateur peut continuer à faire du V6 only. Excusez-moi, ouais, je n'ai pas été précis. Merci. Donc la problématique du roaming en IPv6, aujourd'hui le roaming il est toujours en IPv4. Hein. On peut envisager de faire du roaming avec certains pays, mais globalement on ne peut pas faire de roaming monde. Hein. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y aurait un intérêt à vraiment faire du roaming en IPv6? Puisqu'à ce moment-là on va se retrouver pareil dans une même configuration. On aura des pays qui seront en IPv4, d'autres en IPv6. Donc on génère de la complexité à passer en IPv6. Voilà. Alors bon, on va devoir faire du roaming en IPv6 parce que sur le M2M, eh bien, on est un peu obligé parce que les capteurs M2M ne distinguent pas le réseau home du réseau visité. Donc, on va être obligé de faire du V6. Mais voilà, ça va aussi générer de la complexité si on doit faire du roaming en IPv6. Donc, les problématiques pour atteindre un réseau IPv6 only. Donc, aujourd'hui, la configuration IPv6, elle varie suivant les opérateurs. Donc, en fait, IPv6, il devient un élément différenciant entre opérateurs, ce qui va compliquer la généralisation de l'IPv6. Voilà. Ça va nous obliger, dans certains cas, si on a un problème, par exemple une explication, eh ben, on va être obligé de repasser le client en IPv4 pour résoudre son problème. Parce que même s'il ne marche pas sur trois opérateurs, l'applicatif, à partir du moment où il marche sur un seul opérateur, eh ben, on est obligé de faire fonctionner le système et donc de le repasser en IPv4. Voilà. Après, on rencontre pas mal de problèmes au niveau des entreprises sur les solutions VPN. Voilà. Bon, le VPN, c'est quelque chose d'applicatif, donc normalement l'opérateur n'aurait pas à faire du debug sur des VPN. Mais bon, voilà, il se trouve que comme si on passe le réseau en IPv6, on demande au client de passer en IPv6, donc on est un peu responsable de son VPN qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fait un choix d'architecture IPv6 only avec NAT 6.4 et DNS 6.4. En fait, c'est plus compliqué que ça. On a fait IPv6 only plus NAT 6.4 plus DNS 6.4 plus CLAT et plus le PATMTU Discovery. Voilà. Donc, c'est quand même relativement finalement compliqué. Voilà, donc, je vais vous parler rapidement des fonctions DNS NAT64 et DNS64. Voilà, donc, en théorie, ces fonctions, elles sont sous le contrôle de l'opérateur, elles sont sous le contrôle d'Orange. Voilà. Sauf que dans la pratique, un client peut mettre un DNS alternatif. Voilà. Donc, et là, on peut potentiellement se retrouver avec des problèmes. Le DNS peut être que IPv4 s'il n'y a pas le CLAT. On peut avoir des problèmes à partir du moment où le client va changer de DNS. Alors, sur le grand public, on n'a pas trop d'utilisateurs qui changent leur DNS, mais sur l'entreprise, c'est assez courant. Donc, ça génère des problèmes, voilà, de dysfonctionnement suite au passage en IPv6. Alors, il y a un élément qui est très important, c'est le CLAT. Voilà. Donc, comme je le disais, on a fait une connexion IPv6 en ligne avec NAT64, DNS64, mais aussi le CLAT qui est très important. Donc, en théorie, toutes les applications doivent fonctionner avec une connexion IPv6 en ligne plus NAT64, DNS64, mais dans la pratique, voilà. En attendant que ce soit le cas pour toutes les applications, le CLAT est une solution. D'accord ? Le CLAT, il est sur l'équipement mobile. Donc, voilà, encore une fonction qui est hors, d'accord, de contrôle de l'opérateur. Et voilà, le CLAT, il est essentiel pour nous pour le passage de l'existant en IPv6. Voilà, il est essentiel pour le partage de connexion. Par contre, ce CLAT, ben, autant il est sur Android, hein, il est sur iOS, hein, natif sur iOS et sur Android. Mais si on élargit le spectre des équipements mobiles, à ce moment-là, on a une présence beaucoup plus faible du CLAT. Voilà. Et sur les capteurs M2M IoT, eh bien, on n'a pas de CLAT garanti. Ce n'est pas une fonctionnalité standard des capteurs IoT. Donc, voilà, c'est un problème pour le passage de l'IoT en IPv6. Donc voilà, le message qu'on devrait faire passer, c'est que le CLAT, ça facilite la transition vers IPv6, mais une vraie compatibilité IPv6 des applications semble préférable. Alors, il y a une autre chose qui est très importante, c'est le PAT MTU Discovery. Voilà, donc on fait comme je viens de le dire, on fait une connexion IPv6 en ligne avec du NAT64, DNS64, le CLAT et aussi le PAT MTU Discovery. Voilà, le CLAT, c'est une solution pour résoudre des problèmes, mais c'est pas suffisant. On a aussi besoin de cette fonctionnalité, le PAT MTU Discovery. En fait, je vais expliquer rapidement le principe du PAT MTU Discovery. Donc, les routeurs ne fragmentent jamais en IPv6. Donc, si le paquet est trop gros, il est rejeté par un message IPCMPv6 paquet too big. Voilà. Donc, et à ce moment-là, la source va adapter la taille de ses paquets. Voilà. Donc, s'il y a un firewall sur le chemin qui bloque ce message, eh ben, la source ne réduit jamais la taille des paquets. Donc, à ce moment-là, on a une application qui ne fonctionne pas. Donc, comme le CLAT, hein, le PAT MTU Discovery, c'est quelque chose qui est très important pour le passage de l'existant en IPv6, hein, et pour le partage de connexion aussi. Voilà, donc c'est pareil, il faut que les applications, les VPN notamment, supportent le PAT MTU Discovery. Sinon, ben, on a des problèmes de dysfonctionnement. Voilà, donc un petit un bilan, bon, j'étais rapide finalement dans la présentation. Le bilan d'IPv6, voilà, donc après, avec IPv6 only, on s'affranchit de la pénurie d'adresses IPv4. Mais on introduit quand même une complexité opérationnelle supplémentaire. Donc, on pense que voilà, IPv6 only, c'est le meilleur choix stratégique, à condition de limiter la durée du temps où on va être en IPv4 et en IPv6. Voilà. Et donc, il faut aller vers des réseaux IPv6 only. Aujourd'hui, ça nous paraît compliqué d'avoir des réseaux IPv6 only. Hein, voilà. Sur le grand public, on a l'objectif d'arrêter IPv4 en 2030. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît peu probable. Hein. Si on arrive à atteindre 99% des connexions IPv6 d'ici 2030 pour les clients sur le grand public, ce sera déjà très bien. Voilà. Et après, sur le marché entreprise, la progression sera plus longue parce qu'à ces jours, la majorité des entreprises ne prennent pas en compte le fait qu'il faut passer en IPv6. Voilà. Quant au marché M2M, ben, là, c'est encore plus compliqué parce qu'on a souvent dit que le M2M on a souvent associé IPv6 au M2M, mais dans la pratique, on n'a pas vraiment de demande pour IPv6 du côté M2M. Donc, on va essayer de migrer une partie de notre parc M2M en IPv6, mais cette migration, elle n'en est qu'à ses débuts. Donc, on va gérer de la complexité. On va avoir un service M2M où il y aura les deux protocoles. Et là, on est à peu près sûr que dans 10 ans, on aura toujours de l'IPv4. On aura toujours des clients M2M qui seront en IPv4. Donc, on génère de la complexité. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions.
Moi, j'aurais deux questions.
Oui.
La première, avec le volume d'adressage, est-ce qu'il est envisageable dans les années à venir que la sortie de la data se fasse plus localement sur les plaques plutôt que en IPv4, on est habitué à avoir le CGNAT qui est potentiellement en Île-de-France et puis tout le monde repasse par là. Est-ce qu'en IPv6, on se dit, bah tiens, le trafic, on va l'offloader plutôt en dehors du réseau mobile et garder que la signalisation?
Oui, c'est possible, mais alors ce n'est pas vraiment dans notre stratégie d'IPv6, non. C'est pas ça la réponse. C'est peut-être qu'on fera ça, mais ça correspond pas vraiment. C'est pas suite à IPv6, quoi.
D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'international, dans peut-être une décennie, ça sera le cas justement pour avoir des.
Alors, tout à fait, ce sera sans doute le cas, mais c'est pas géré dans le cadre du projet IPv6. Oui. Voilà. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Voilà.
Non, vraiment, parce qu'il n'y a plus l'aspect que j'ai du mal à avoir assez d'IPv4 un peu partout, parce que c'est compliqué, on le sait tous. Et ma deuxième question, c'était sur les hotspots. On voit des opérateurs qui fournissent un deuxième /64 au terminal pour faire du stateless quand on fait du hotspot, d'autres non. Est-ce que là-dessus, il y avait une...
Alors, un /64, non, on utilise le même, c'est-à-dire du partage de connexion.
Oui, c'est ça.
D'accord. Non, on utilise le même /64.
D'accord.
Voilà. Mais pas la même adresse, mais le même /64, ouais. Bon, je vois pas d'intérêt d'avoir un autre /64.
Alors, je sais qu'en fait, c'est dans les chips, quand on a un deuxième /64, ça permet de faire toutes les transactions, les traductions en stateless pour les équipements qui feraient justement, qui en auraient besoin avec un CLAD de leur côté. Enfin, qui n'ont pas de CLAD de leur côté, qui vont utiliser celui du téléphone. Voilà, donc c'est juste une question dans la puce, de la façon de traiter, c'est que dans un cas, il y a une table stateful dans le téléphone et dans l'autre, non. Ça change pas grand chose pour le end user.
Non, on n'a pas eu ce genre de problème, non.
Et j'en ai une dernière. Aujourd'hui, les terminaux, on voit depuis 5 ans des offres fixes sur réseau mobile, parce que dans certains cas, on n'a pas de connectivité filaire. Est-ce qu'aujourd'hui, entre les normes et le niveau de déploiement, vous trouvez que vous êtes presque à iso-fonctionnalité entre une connexion? Alors, je ne parle pas du débit et de la latence, bien sûr, hein. Ça dépend du médium, mais en termes de fonctionnalité, est-ce que vous pensez que vous êtes très proche entre une FTTH et une 5G avec une box fixe, par exemple?
Alors là, je peux pas répondre. Je sais pas. C'est pas vraiment le sujet. Je vais pas répondre à ça parce que c'est pas vraiment le sujet d'IPv6. Si je me trompe ou.
Un exemple, tiens, c'est je veux une délégation de préfixe. Est-ce que demain ça va marcher sur.
Non. Non.
Là, j'ai pris exprès un exemple embêtant. Hein, mais...
Non. Là, on ne fait pas de délégation de préfixe pour l'instant.
Bon, il y a de toute façon, je crois qu'il n'y a pas la norme de 3GPP, donc. Ou alors,
il y a délégation de préfixe. Non, on ne fait pas ça.
Merci.
Il n'y a pas que ça, hein, juste pour compléter. Hein. Le mobile, il prend un /128. Hein.
Comme non, le mobile, il prend un /64, comme l'a dit.
Quand on a un abonnement 5G, on a un /128. Hein. On n'a pas de /64.
Non, quand vous avez un abonnement 5G, vous avez aussi un /64.
Sur le téléphone?
Oui, sur le téléphone. Quoi qu'il arrive, vous avez un /64. Ouais.
Le téléphone peut prendre un /120, enfin, ça prend une seule adresse, mais dans un /64.
Ah oui, d'accord. Oui, voilà. On attribue au téléphone un /64, après il va utiliser une adresse dans ce /64. Oui.
D'ailleurs, quand on regarde entre Android et iPhone, hein, je crois que sur Android, les applis, je crois que c'est plus le cas maintenant, mais dans certaines versions, il y avait un CLAT qui utilisait aussi une autre adresse V6 en dur pour faire du NAT pour les applis qui, elles, ne marchaient qu'en stack V4 à l'intérieur du téléphone. Donc là, c'était pas du hotspot, c'était vraiment. Apple, eux, ont été beaucoup plus, on va dire, autoritaires dans leur façon d'implémenter en forçant les gens qui développaient à tout de suite l'implémenter jusqu'à la couche applicative. Mais on voit des réservations d'adresses internes aux machines qui sont totalement fantomatiques. Enfin, si on cherche pas, on les verra jamais.
Voilà, donc puisque vous parlez d'Apple, justement, Apple oblige les fournisseurs d'applications à être en IPv6. Apple n'implémente le CLAT que sur le partage de connexion. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, pardon.
Oui, bonjour. J'ai une question sur les questions d'IPv6 et du M2M. Et... IPv4, vous parlez de M2M cellulaire, donc sur quelle technologie réseau ? 2G, 3G, 4G. Et est-ce que le sunsetting peut vous aider?
Oui, tout à fait. On espère, tout à fait. Le sunsetting va nous aider sans doute à passer les clients en IPv, en 4G et donc en IPv4, oui. En IPv6, pardon. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais là, je parlais, peu importe la technologie pour l'instant, voilà. Parce que il y a quand même beaucoup de clients M2M qui font de l'itinérance. Donc, là, la 2G, 3G va rester.
Et du coup, c'est l'itinérance de gens qui sont dans qui ont des SIM étrangères, qui viennent en France et qui ont un service en France, ou c'est quel genre de...
Ça peut être dans les deux cas sont présents. Merci. Et disons que, voilà, pardon, ce que je voulais dire sur le M2M, c'est que un client à qui on va fournir du V6 en France, il faut que ses SIM aussi, elles puissent faire du V6 à l'étranger. Voilà. C'est surtout ce cas-là qui nous oblige à faire du V6 en roaming. Parce que les capteurs M2M ne distinguent pas le protocole home du protocole itinérance. Donc, ils ne peuvent pas te faire... Voilà, sur un mobile, vous restez toujours en IPv4 parce que le mobile, il sait que vous êtes à l'étranger, il vous rebascule en IPv4. Ce n'est pas le cas des capteurs M2M.
Okay, merci. Bonjour. Question pour le FileOver. Bon, pour le support IPv6 dans les 4G, 5G, c'est clair. Au niveau du SPA Gateway, au niveau du EMF, ça fonctionne de la même façon. Mais s'il y a la perte de 4G, 5G, et portable tombe sur le 2G, 3G, qu'est-ce qui se passe?
Bah là, il n'y a pas de... En IPv6, c'est pareil, vous êtes en IPv6, en 2G, 3G, 4G, 5G.
Mais 3G, ça, c'est notre niveau de support, un niveau de PPP, et c'est control plan. Donc, c'est une autre démarche pour l'intégration. Est-ce que c'est bien réalisé chez vous?
Oui, 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 tout à fait. Oui, vous avez du V6, quelle que soit la technique, quel que soit le rate, ouais.
D'accord.
2G, 3.
Et deuxième petite question, concernant le problème de roaming, ça, c'est plutôt le problème, ce que pas tous les opérateurs aujourd'hui supportent IPv6, et donc le risque que l'abonné dans les réseaux étrangers ne peut pas établir, donc l'opérateur étranger ne peut pas établir la communication IPv6 avec le réseau home.
Alors, le problème, c'est qu'on voudrait éviter de refaire ce qu'on a fait un peu sur le réseau Orange France, c'est de se retrouver avec de la complexité en roaming. Voilà. Donc, si on commence à ouvrir IPv6, on pourrait ouvrir IPv6 avec quelques pays, mais après, on se retrouve avec des pays en V4, des pays en V6. Ça génère beaucoup de complexité, tout ça, à gérer. Voilà. C'est ça, notre problématique. Parce que, par exemple, on a fait des tests il y a un an en Allemagne, et en campagne allemande, eh ben, on n'a pas de V6. Voilà. Même si l'opérateur nous a dit normalement, on pouvait faire du V6. On a vu qu'en campagne, eh ben, on n'a pas de V6. Donc, c'est difficile d'ouvrir un service si on n'est pas sûr à 100% qu'il va marcher. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire dans cette présentation. Notre grosse problématique aujourd'hui, c'est que, voilà, on est sur une période où on a les deux, IPv4, IPv6. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué à gérer. Voilà. Donc,
merci.
Voilà. Pas d'autres questions. Merci à tous.